Toyota Cowansville est fier de rouler aux côtés du balado Le Guide de l'auto. En écoutant cet épisode, rendez-vous sur le site cowansvilletoyota.com et voyez la grande sélection de véhicules en inventaire, dont les BZ4X et les Tundra. Toyota Cowansville. Ici, chaque client est unique. Bonne écoute!
Actualité automobile. Faites le plein. Un parcours bien contrôlé, c'est le Guide de l'auto. La référence depuis 1967. Le Guide de l'auto.
Bonjour tout le monde, bienvenue au Guide de l'auto télé-radio. Parce qu'il ne faut pas confondre Guide de l'auto TVA et le Guide de l'auto à Cube Télé, ce que j'ai fait la semaine passée dans des échanges de courriels, c'était un peu bizarre. Alors oui, il y a deux émissions du Guide de l'auto à la télé désormais, mais vous l'entendez peut-être en balado ou à la radio en direct. Alors bienvenue, qu'importe le type de média que vous utilisez. Et vous aurez peut-être compris que Antoine est un peu grippé cette semaine. Alors les R vont sonner comme des N. Bref, il y a des consonnes qui vont sonner un peu bizarre, mais on est là quand même. Et vous aurez peut-être déjà remarqué l'absence de Louis-Philippe qui est parti assister à la levée de couverture du Chevrolet Equinox de production. Un véhicule qu'on peut aussi voir au Salon de l'Auto de Montréal qui a été mis en avant-première ce jeudi. Donc, il y a une famille complète de véhicules électriques, Hugues, du côté du Salon de l'Auto de Montréal. D'ailleurs, on va un peu commencer avec ça. Alors, Louis-Philippe sera de retour la semaine prochaine pour nous parler notamment de ce qu'il aura appris sur l'Equinox avec une mise à jour, parce que bien sûr, oui, ils sont à Montréal, mais non, ils sont pas encore sur le marché. Et il y a eu un arrêt de production du Blazer EV, un report de commercialisation de l'Equinox. Alors, on va en apprendre peut-être un peu plus là-dessus. Mais en attendant, le Salon de l'Auto de Montréal, il y a quand même plusieurs attractions et j'ai hâte de voir quelle sera vraiment la réponse du public. Est-ce qu'on y sera en si grand nombre? Parce que on tente le tout pour le tout cette année. Oui, il y a quelques constructeurs automobiles de plus. On en parlait la semaine passée, Ford entre autres. Mais il y a aussi beaucoup de trucs qui n'ont pas de lien direct avec l'automobile.
Ouais. Qu'est-ce que tu en penses de ça?
Ben, en fait, on se disait à la blague, parce qu'on a amené des embarcations nautiques, on a amené des motoneiges, des VTT, des quads, on a amené toutes sortes de trucs. Essentiellement, le cinquième étage est composé de tout sauf de la voiture neuve.
En fait, c'est plus le salon de l'auto, c'est le salon de la mobilité, de tout ce qui bouge sur roue, sur l'eau, sur terre.
Ouais, c'est ça. Et ce qui est un peu ironique, c'est que tout de suite après le salon de l'auto, au Palais des Congrès, c'est le salon du bateau. Alors, j'ai l'impression qu'il y a des véhicules qui vont rester là pendant 3 semaines.
Il y en a qui vont faire des économies.
Ouais, c'est ça. Mais non, c'est sûr qu'il y a toute une section de véhicules récréatifs ou de véhicules de loisirs, comme ils aiment les appeler, qui ne sont pas directement connexes à l'automobile. Par contre, il y a des sections de voitures modifiées. Il y a de très belles pièces. Il y en a qui me plaisent un peu moins. Personnellement, je vais vous inviter à aller voir sur le cinquième étage, juste avant de descendre les marches, la très belle Buick Riviera 1971 qui a été entièrement restaurée par mon ami Pierre Grenon dans les règles de l'art. Et cette voiture-là, c'est un hommage à la Buick que Guy Lafleur conduisait à l'époque. Il a essentiellement restauré une Riviera en se fiant exactement à celle que Guy Lafleur conduisait à l'époque. Même couleur, mêmes options, wow. Même configuration. Il y a la plaque d'origine de Guy Lafleur sur la voiture. Il y a beaucoup, beaucoup de documentation et d'accessoires qui proviennent de cette époque-là appartenant à Guy Lafleur. Alors,
mais,
allez voir ça,
c'est
un bel hommage.
Mais
c'est pas la vraie. La vraie, je pense qu'elle n'existe plus. Mais bref, c'est une voiture hommage à Guy Lafleur et il y a un concours entourant cette voiture-là aussi parce qu'il y aura possibilité de l'acheter en enchère. Bref, allez voir ça. Moi, c'est une voiture qui me plaît personnellement. Et je sais que tu aimes les grosses voitures américaines, Hugues.
Absolument.
Alors, celle-là, elle est assez grosse.
Particulièrement la Riviera 71.
Ouais, c'est pour ceux qui ne la voient pas, c'est le fameux modèle Boat Tail là, qui a fait énormément jaser.
Oh oui.
Et je pense qu'à ce jour, c'est la voiture que j'ai conduite qui consomme le plus d'essence, toutes catégories confondues. Bon, évidemment, excluant, mettons, un Ram TRX, c'est des trucs comme ça, là.
Mais de l'époque?
Mais une voiture de production, là, qui fait 23 litres au 100 à rouler normal.
C'est rien du tout. Ma Mercury fait 30 litres.
Oui, mais ta Mercury fait 30 litres.
Ma Mercury fait 30 litres.
Nettoie donc tes carburateurs un peu.
Ça a été fait. Et ça change rien.
23 litres au 100, j'ai trouvé ça quelque chose.
C'est économique.
Hein, quand même. Et là, pour ceux qui me regardent à la télé, j'ai une petite boisson chaude avec moi pour histoire d'essayer de... d'amenuiser le son de ma voix.
De sauver ce qui reste de ta voix.
Ouais, c'est ça, exactement. bref, alors, oui, il y a cet étage-là au Salon de l'Auto de Montréal.
Est-ce qu'il y a d'autres attractions intéressantes?
Ben, en fait, c'est sûr que le truc qui a été dévoilé à la dernière minute jeudi, juste avant que la tournée médiatique se termine, c'est la présence du Cybertruck de Tesla. Wow. qui va faire énormément jaser. Bon,
ça, c'est clair.
Évidemment que tu, l'attraction n'est pas dans son esthétisme, mais dans son originalité. Et évidemment, pour les passionnés de la marque et pour les passionnés de véhicules électriques, c'est quand même une belle curiosité à voir. Et c'est vraiment la première fois qu'on voit le Tesla Cybertruck de façon officielle au Canada.
Alors est-ce que ça surprend autant en vrai que ça surprend en photo?
En fait, moi je te dis, moi je l'avais déjà vu du côté de Los Angeles. C'est extrêmement laid, mais en même temps, la configuration, elle est vraiment géniale. C'est-à-dire que j'ai l'impression que la polyvalence de sa conception va réussir à séduire beaucoup d'acheteurs qui vont passer par-dessus son look. Puis il y en a qui vont se ficher complètement du design en se disant que c'est un pied de nez à GM, Ford et Ram, puis c'est correct. Mais je pense que c'est un produit plus sérieux qu'on ne peut pas rigoler de ce produit-là et penser que ça va être un échec. Moi, je pense que ça va être un succès, honnêtement. Après ça, ben, est-ce que la clientèle va être au rendez-vous? Comment Tesla va la jouer? J'ai bien hâte de voir.
Il y a aussi beaucoup de questions de qualité qui vont jouer dans les
mais
quotidiens.
Jusqu'à date, Tesla, on ne peut pas dire qu'on s'est trompé très souvent. C'est un 4 en 4 pour Tesla depuis qu'on est sur le marché. Puis évidemment, je parle pas de la Tesla Roadster, là, qui était une Lotus retravaillée en voiture électrique, mais des gros modèles de production pour Tesla jusqu'à maintenant, c'est quand même
c'est
une réussite.
Succès,
on peut pas renier ça. Si vous allez au 7e étage, vous allez voir 4 constructeurs qui sont là. Alors Mitsubishi, 4 marques, devrais-je dire. Alors Mitsubishi, Infiniti qui est là, Volkswagen, c'est un réseau de concessionnaires qui a amené des véhicules. Alors, Volkswagen Canada n'y est pas présent. Et Shelby American a un kiosque où vous allez avoir des voitures assez attrayantes aussi, mais qui viennent du groupe Olivier. Ça, c'est à voir. Évidemment, ben, que l'incontournable, c'est la collection de Luc Poirier. Moi qui connais bien Luc Poirier, sans dire que c'est un ami personnel, c'est quelqu'un que j'ai croisé à plusieurs reprises. On a souvent jasé voiture ensemble. Je connais très bien ses hommes de main aussi. Quentin qui s'est occupé de transporter ces 39 Ferrari-là ici au Palais des Congrès un jour de tempête de neige. Permets-moi de te dire que c'était pas évident.
Non.
D'autant plus que ce qu'il m'expliquait, c'est que cette journée-là spécifiquement, ils avaient fait un banc de neige à peu près 4 pieds de haut devant l'entrée du Palais des Congrès. Donc, il fallait attendre qu'on déneige. Et alors, tous les camions étaient sur les... En bon français, on dit les 4 flashers, là, stationnés sur la rue Saint-Antoine en attendant que ça se passe.
Avec 39 voitures qui attendaient en ligne.
Imagine-toi. Et ce qu'il y a de particulier, c'est que il y a certaines de ces voitures-là qui valent tellement cher qu'il n'y a aucun transporteur, même les plus spécialisés, qui peut avoir une couverture d'assurance suffisante pour transporter des voitures qui valent 3, 4, 5 millions de dollars. Alors, eux devaient transporter ces voitures-là dans des remorques leur appartenant de façon individuelle. Imagines-tu le bordel? Alors, c'est très intéressant. Il y a une Ferrari 330 GT qu'on a amenée au salon à la toute dernière minute. Ils ont fait l'acquisition de la voiture jeudi de la semaine dernière. Ils ont réussi à relâcher la voiture des douanes américaines jeudi de la semaine dernière. Ils ont acheté la voiture il y a 2 mois et demi en Pennsylvanie. Mais le temps que la paperasse se fasse et que la voiture soit dédouanée, c'est tout juste si on réussit de l'avoir. Et mon ami François Bonneville est allé la polir pour qu'elle elle ne clashe pas avec les autres. Mais c'est une voiture vraiment magnifique. Bref, allez voir cette collection-là. Il y a Il y a malheureusement un petit trou dans la collection et c'est la 458 qui n'est pas présente parce que M. Poirier est entre deux chaises, a vendu la sienne et est en train d'en acheter une autre, mais l'autre n'est pas arrivée. Mais vous allez en avoir plein
grosse
la vue.
Déception.
C'est vraiment, exceptionnel.
Ça va être un des clous du salon, clairement.
Ah ben c'est le clou du salon. De façon incontournable. Parce que si vous étiez au salon l'année passée, vous avez vu 50% des voitures qui sont là. Il a ramené évidemment les 5 supercars Ferrari. Il en a ajouté une sixième étant la Ferrari Aperta. Mm-hmm. Donc il y en a une sixième qui est branchée là, justement, parce que c'est une hybride rechargeable. Mais il y a toute une collection de Ferrari là qui est vraiment impressionnante. Et en plus de ça, il a amené quelques autres voitures, des McLaren, des Porsche, qui sont exposées dans un autre endroit. Il y a quelques nouveautés. Franchement, qu'on n'avait pas vu nulle part avant le Salon d'Auto de Montréal. Je pense au nouveau Hyundai Santa Fe. L'Ioniq 5N avec son essuie-glace arrière, soulignons-le.
Ah, enfin?
Enfin, c'est ça. Le Kia EV9 qui a gagné le SUV of the Year par le jury du North American Car of the Year est présent sur place. Bon, la Camry 2025, vous allez me dire que c'est rien d'excitant, mais c'est quand même un véhicule
ça reste quand même un gros vendeur, ça reste quand même intéressant pour bien du monde.
Et évidemment, ce que je dois souligner que les constructeurs qui sont présents sur place ont mis les efforts nécessaires. Ils ne sont pas arrivés ici à moitié. J'apprécie particulièrement l'audace de VinFast. Alors, VinFast, c'est une compagnie complètement champ gauche, qui ne fait rien comme les autres. J'ai discuté aujourd'hui avec le directeur national des relations publiques et lui-même m'expliquait que composer avec les Vietnamiens, c'est assez particulier en ce sens que évidemment que VinFast au Vietnam, c'est l'idole du peuple. Évidemment. Alors, on n'en parle jamais, jamais, jamais en mal. C'est toujours ultra positif.
C'est clair.
Et les Vietnamiens s'attendent à ce que ce soit comme ça, d'un océan à l'autre, partout sur la planète.
Malheureusement
pour eux, ce n'est pas exactement le cas. Alors, eux, ils ont carrément fermé les portes aux journalistes en disant « On ne veut pas avoir de commentaires négatifs, alors on ne prête rien, on fait un événement ». Ça sera entièrement contrôlé et comme ça, il risque pas d'avoir mauvaise presse. Alors, ça sera un défi dans les prochains mois. C'est un appel à tous. Là, si vous possédez un VinFast VF8, je veux le conduire parce que j'ai même fait des démarches auprès des concessionnaires et ça ne se peut pas. Ils n'ont pas l'autorisation de prêter des véhicules. Bref, c'est assez compliqué. Mais VinFast est présent au salon avec un très, très gros kiosque. On aurait pu s'attendre à ce qu'ils disent « Bon, nous, on va se concentrer sur le salon du véhicule électrique. » Pourquoi venir dans un salon de véhicules général quand, comme Polestar, on peut aller cibler notre clientèle plus efficacement? Alors là, eux veulent se faire connaître.
J'imagine qu'ils ont eu des bons retours de l'année dernière.
D'une part. Et d'autre part, ils ont 3 nouveautés à présenter, ce qui est quand même pas rien. Alors, ils ont amené le VF7 de production, qui est un véhicule format... J'ai envie de vous dire format le Hyundai Tucson. On est carrément là-dedans. Alors, ça sera un véhicule de masse qui a une très belle gueule. Le VF3, qui est un concept qui est à mi-chemin entre une Mini puis une Smart puis un Suzuki Sidekick. Là. C'est minuscule comme véhicule. Il semble que ça sera un véhicule de production vendu chez nous. J'ai presque de la misère à le croire tellement c'est minuscule. Une camionnette qu'on appelle, dont le nom m'échappe, mais une camionnette qui sera vendue par VinFast et un véhicule qui me plaît bien, c'est le VF6, modèle de production aussi, qui est format Chevrolet Bolt, littéralement.
C'est ça.
Alors ça risque de connaître beaucoup de succès chez nous. Mais bref, ils ont une gamme très complète. Ils la présentent, ils sont audacieux. Et je dois dire que Ford, qui n'était pas présent l'année passée, a mis le paquet aussi. Pas beaucoup de nouveautés à présenter, cela dit, mais ils ont un kiosque très, très, très sérieux. Alors, c'est le fun de les voir revenir, de voir qu'il y a un peu plus d'engouement. Mais évidemment qu'il y a encore plusieurs absents. Honda Acura, Évidemment, Subaru et Mazda, qui sont trois constructeurs japonais qui ne sont pas présents. Ça paraît. Chez les généralistes, ben, on l'a dit la semaine passée, Stellantis n'est pas là. Alors, Chrysler, Jeep, Dodge, ça aussi, ça paraît. Puis là, ben, après ça, c'est toutes les marques de luxe allemandes. Alors, Audi, BMW, Mercedes, Porsche, qui n'est pas présent. Mais vous allez quand même trouver certaines attractions. Lamborghini, Lotus, bon, il y a quand même... Alors oui, il y a des trous, mais il y a quand même de quoi se mettre sous la dent, je
Donc,
pense.
Donc, ça reste salon. Quand même une belle sortie pour les amateurs, pour la famille, et puis la traditionnelle sortie du mois de janvier, ça vaut encore le coup?
Ça vaut encore le coup dans la mesure où on connaît les attentes. Faut pas penser qu'on va voir tout le monde. Alors, l'année passée, il y avait beaucoup de gens qui étaient frustrés de la situation. Mm-hmm. D'autant plus que les gens n'étaient pas mis au courant et qu'on n'a évidemment pas publicisé le fait qu'à la dernière minute, Chrysler et Ford avaient rebroussé chemin. Cette année, les gens sont peut-être un peu plus au fait de ce que c'est. Espérons-le. Et espérons qu'on n'aura pas trop de plaintes. Et quand je dis « on », c'est l'équipe du Guide de l'auto.
Oui, parce que
l'année dernière...
tout
dernier kiosque du parcours encore cette année, à l'opposé du kiosque de rouleau suivant qui, lui, est en début de parcours. Alors, évidemment que je vous invite à venir nous voir aux deux kiosques. Mais,
donc, en fait, si les gens arrivent au bon moment, ils risquent de te voir en arrivant et ils risquent de te voir aussi en partant.
Oui, ça se peut.
Ça se peut.
Effectivement,
et
ça
voilà.
se peut. Et toi aussi, tu vas venir faire ton tour au kiosque du guide, bien sûr. Alors, on va se croiser là-bas.
C'est clair.
Mais c'est évidemment que le salon de l'auto, c'est tout le temps un moment fort pour débuter l'année. L'année passée, c'est vrai que ça a été un difficile malgré la popularité de l'événement. On le disait, là, 140 000 personnes à peu près. Mais il en demeure pas moins que il y a quand même beaucoup d'attractions et plus que l'année passée. Mais parmi ça, il y a des trucs qui ne sont pas authentiquement dédiés à l'automobile. Faut ouvrir ses œillères un petit peu et peut-être s'intéresser à autre chose que juste les voitures traditionnelles.
Après tout, pourquoi pas?
Bon, il n'y a pas que le salon de Montréal qui fait jaser cette semaine, il y a aussi le salon de Détroit.
Qui est supposé revenir au mois de janvier.
C'est drôle, ça.
Ah bah tiens.
Tu l'as fait comme moi pendant des années, le salon de Détroit.
Jusqu'à l'écœurement.
Ben, moi, ça a été une tradition que j'ai adorée. C'est sûr qu'il y a eu des années plus sombres que d'autres.
Ouais.
L'année suivant, la faillite de GM et de Chrysler, je peux te dire que on avait mis des chandelles avec des tapis gris puis des voitures, puis c'était à peu près tout, là. Mais les bonnes années du salon de Détroit, évidemment, sont disparues avec l'arrivée de la pandémie. On avait déjà décidé de repousser le salon de Détroit à l'été en 2020. Donc, il n'y avait pas eu d'édition en janvier 2020 comme il y aurait normalement eu. Et depuis, ça a été que des fiascos. Et là, on a décidé, contre toute attente, de revenir à la formule initiale, c'est-à-dire de faire ça en janvier, en début d'année, en même temps que le CES. Je trouve ça audacieux.
Oui. Ben de toute façon, on va dire que le salon de Détroit a quand même perdu beaucoup de son lustre.
Ah, ben ça sera jamais ce qu'on a connu il y a 15 ans, ça c'est certain. Mais est-ce qu'on va aller rechercher un engouement ou voire même la tradition que les gens avaient depuis des années d'aller voir le salon de l'auto de Détroit? Moi, je veux dire, j'ai assisté au salon de l'auto de Détroit pour la première fois en 97 et j'en ai pas manqué un jusqu'en 2019. Alors, pendant 22 ans, j'y suis allé. Et alors, j'ai vu l'évolution, j'ai vu les belles années, les moins belles années de cet événement-là. Puis, je suis un peu content que ça revienne en janvier, mais j'ai vraiment hâte de voir quel sera le résultat de ce salon-là. Parce que si c'est comme ce qu'on a fait l'année passée, c'est-à-dire la présence de GM, Ford, Chrysler et Toyota uniquement, avec un petit kiosque Subaru où on avait amené des chèvres, ben ça vaut pas le coup, là.
Mais non,
exactement. Bon, j'ai aussi parlé cette semaine à l'ingénieur en chef de la Mustang Mach-E. Tu sais que c'est un véhicule avec lequel on a connu beaucoup de problèmes chez Ford, et ne sois pas étonné qu'il n'y ait pas d'autres produits Ford ou Lincoln exploitant cette plateforme-là pour le moment. Alors, elle s'appelle Donna Dixon. J'ai eu un entretien d'une demi-heure avec elle au téléphone pour parler des problèmes de la Mustang Mach-E, qui sont évidemment nombreux, et ça ne se limite pas qu'au véhicule. Elle m'a beaucoup parlé des améliorations qu'on avait faites sur le véhicule, améliorer la qualité des batteries, améliorer les systèmes de sécurité, le système d'exploitation avec des mises à jour pour que le véhicule soit plus fiable, réponde mieux aux attentes des consommateurs, ajustement des suspensions, on a parlé de tout ça.
Mais quand tu dis qu'il n'y a pas juste le véhicule qui a été adapté, qu'est-ce qu'il y a comme problème extérieur au véhicule?
Ben, le problème extérieur, c'est que s'il y a un bris, il n'y a personne pour le réparer, il n'y a pas d'expertise.
Ça, c'est un méchant problème.
Et moi, j'ai posé la question, est-ce que vous avez ce qu'on appelle dans le jargon des troubleshooters, ici au Canada, pour réussir à régler des problèmes lorsqu'un Mustang Mach-E devient un ancre à bateau que le concessionnaire n'est pas capable de le réparer? Parce qu'on l'a vu très souvent, des Mach-E qui sont restés 2, 3, 4, 6 mois chez des concessionnaires avec l'impossibilité de les réparer, soit parce qu'on n'avait pas la pièce, que la pièce de remplacement n'était pas produite, soit qu'on n'avait pas l'expertise pour le réparer ou l'outillage.
Alors, quand on s'appelle Ford, c'est quand même un sérieux problème. Quand on est un nouveau venu, industriellement parlant, c'est presque admissible, mais quand on s'appelle Ford, c'est...
Ben, en fait, moi, j'ai osé aborder le sujet du Canada versus les États-Unis. Parce que pour moi, s'il y a une compagnie qui a très longtemps considéré le Canada comme un 51e État, c'est bien Ford. Tu sais, le Canada, c'est moins important que le Rhode Island pour Ford. Pourtant, au Canada, le F-150 est numéro un. C'est pas le cas aux États-Unis. Il y a quand même une fidélisation de la clientèle du côté de chez Ford.
Absolument.
Ici au Canada, beaucoup plus au Canada anglais qu'au Québec. Au Québec, on perd un peu des parts de marché, mais quand même, c'est une marque très importante.
Évidemment.
Bon. Et ce qu'on n'avait peut-être pas anticipé chez Ford, c'est le succès du Mach-E au Québec, considérant nos habitudes d'achat, notre goût vers l'électrique et, bien sûr, nos subventions. Alors, est-ce qu'ils ont été pris de court? Est-ce qu'ils se sont doutés qu'il y aurait une grosse partie de la production qui se retrouverait ici et qui serait testée par les consommateurs qui les ont payés à grands frais dans des conditions extrêmes comme celles du Québec? Moi, je pense qu'on avait sous-estimé ça. Et là, on s'est rendu compte que les problèmes popaient, excuse-moi l'expression, mais partout ici au Québec, incluant des problèmes de corrosion. Là. Et là, pas capable de régler le problème. Alors, j'ai posé la question, je reviens à mon départ initial. Est-ce que on a une équipe de troubleshooters ici au Canada pour régler ce problème-là? Et on m'a répondu, ben on a des gens effectivement à Oakville qui sont spécialisés avec le Mach-E, mais qui se rapportent à des gens à Dearborn. Donc la réponse, c'est non. On n'a pas encore de gens spécialisés, experts, pour régler des problèmes. Et ça, ça demeure le pire problème en ce qui me concerne. C'est-à-dire que un concessionnaire Ford va être capable de réparer ton Ford F-150 les yeux fermés.
À peu près.
T'as un problème avec ton Explorer, ton Edge, garde, on va le régler. Mais un Mach-E, même un Lightning, on est plus enclin à le régler parce que ça demeure une conception de camion assez traditionnelle. On a eu des problèmes avec le Lightning, mais beaucoup moins en proportion qu'avec le Mach-E. Alors, je pense qu'effectivement, le Mach-E 2023-2024 est un meilleur produit qu'en 2021. J'ose espérer.
Avec toutes les mises à jour qui ont dû être faites.
Ouais, l'amélioration des batteries. Puis je parle pas de l'amélioration des batteries en termes d'autonomie, mais en termes de résistance au froid.
De qualité, de gestion thermique.
Exact, t'as tout compris. Voilà. Mais il reste un problème à régler, c'est d'avoir une équipe sérieuse de formateurs et de gens qui sont capables de régler des problèmes lorsqu'il y en a. Et permets-moi de te dire qu'il y en aura encore.
Ah, ça, c'est à peu près sûr.
Alors,
si tu me parles de corrosion et de choses comme ça, c'est qu'il y a, il y a des... Là aussi, ça va être des choses qui vont être... Ben, à améliorer d'un point de vue de la chaîne de production.
Il y aura des problèmes d'ordre électronique, il y aura des problèmes de moteur électrique, de batterie, c'est évident. Il y en a partout, là.
Ben, de toute façon, vu la complexité des systèmes, maintenant, là, les tester dans tous les scénarios possibles, ça devient pratiquement impossible. Et on voit ça de plus en plus avec beaucoup de modèles qui arrivent soi-disant testés, mais en fait, effectivement, comme tu le soulignais, c'est les premiers utilisateurs qui font le bêta testing.
Ben exactement, et c'est un peu malheureusement ce qui se passe avec le Cadillac Lyric, avec le Chevrolet Blazer EV en ce moment. On a arrêté la vente du Blazer EV, mais le Lyric est sur le marché.
Et en fait, c'est presque inquiétant en se disant, mais est-ce que dans la logique des constructeurs, ils sont pas en train de se dire, on peut faire des mises à jour comme on veut maintenant, allons-y.
Ben c'est une bonne question que tu poses là, parce que, écoute, chez GM, c'est encore plus grave. Le Mach-E, c'est un produit unique. On en a vendu, il est arrivé avec un beau design, avec une formule marketing exceptionnelle, que tu sois pour ou contre l'utilisation du nom Mustang sur ce produit-là.
Ça n'enlève rien au produit.
Ben, ça n'enlève rien au produit et on peut certainement dire que ça a contribué à son succès-là. C'est évident. Là. Alors, du coup, mais chez Ford, j'ai envie de te dire qu'on a eu la décence de s'arrêter là. C'est-à-dire, on met le maquis sur le marché, on voit ce que ça donne, on attend, et après, on amènera autre chose. Alors que chez GM, ben là, t'as le Lyric, t'as le Blazer, t'as l'Equinox, Buick arrive avec un électrique, Cadillac va les multiplier, ça sera pas long, là, on le sait, là, on a dévoilé toutes sortes de trucs. Alors, et ça, c'est sans compter la famille des camionnettes. Alors, ça va donner quoi? Parce que c'est tout sur la plateforme Ultium.
Toute l'architecture logicielle, toute l'architecture hardware, les batteries, tout est la même technologie.
Incluant Honda et Acura, le Prologue et le ZDX qui s'en viennent aussi. Là. On va essayer le Prologue d'ici quelques semaines, d'ailleurs, on sera en mesure de vous en reparler. Mais je ne m'attends pas à une révolution, je m'attends à un produit, oui, avec un design Honda, mais avec une technologie GM et avec des problèmes qui seront forcément similaires.
En même temps, la bonne nouvelle, c'est qu'une fois que le problème est réglé, il est réglé sur tous les véhicules.
Oui, mais s'il se multiplie, comme ça a été le cas chez Ford...
C'est aussi sur tous les véhicules.
Et c'est le consommateur qui paie.
C'est clair que les prochains mois vont être un petit peu intéressants, surtout pour les premiers acheteurs.
Ouais. Un autre électrique qui a été présenté cette semaine, je pense que c'est une belle riposte, ça, hein?
Effectivement, le Ram ProMaster qui arrive en version électrique pour contrer le Ford Transit. Et en plus, bonne nouvelle, il a une excellente autonomie.
Ben, excellente, c'est-à-dire il y a 261, c'est ça, il y a 261 km d'autonomie annoncée versus 201 pour le Ford Transit. Bon, les gens vont dire, ah, c'est effrayant, 201 km, mais en même temps, il faut comprendre un truc. Ces camions-là, ce sont des camions de travail à utilisation urbaine.
C'est ça.
Alors, les gens font pas du gros kilométrage avec ça. Alors, 260, c'est suffisant.
Pour les applications, c'est largement suffisant.
Ouais, c'est ça. Et j'ai toujours dit que le Ram ProMaster est un camion qui avait des avantages et des inconvénients. Avantage, c'est un véhicule à traction. Donc, en ville, c'est très maniable. Ça tourne sur un dissous. C'est beaucoup plus pratique qu'un véhicule propulsé. En contrepartie, la mécanique a toujours été cauchemardesque et non fiable. On vient-tu
de régler... Ça remonte peut-être à ses origines Fiat?
Ah, peut-être. Hein? Mais là, on vient-tu de régler le problème?
Voilà.
Espérons qu'on a réglé le problème. Et espérons que ce sera la même chose avec la Fiat 500 électrique. Hein? Parce qu'elle aussi, bonjour les problèmes de fiabilité, mais là, ça débarque avec la Fiat 500 électrique. Alors, pour bien comprendre, le Ram ProMaster, c'est un Fiat Ducato avec une calandre Ram. Là.
C'est ça.
C'est pas d'autre chose que ça.
Exactement.
Mais c'est un produit qui risque de connaître du succès chez nous. Je trouve ça dommage, cependant, qu'on ait abandonné le Ram ProMaster City, qui est un format pratique pour les milieux urbains. Remarque, Ford a fait la même chose avec le Transit Connect.
Exactement.
Nissan a fait la même chose avec le NV200.
C'est des formats européens, c'est des véhicules qui existent en Europe.
Oui, mais ici, ça connaissait beaucoup de succès. Ça vaut son pesant d'or dans le marché d'occasion. Et je comprends pas qu'on ait complètement abandonné ce segment-là.
Peut-être les lois tarifaires, peut-être le fait qu'ils étaient importés, peut-être que c'était
peut-être
pas concurrent.
Peut-être que les Américains n'aiment
pas ça
pas
assez de, peut-être qu'ils faisaient pas assez de profit par véhicule vendu. Sinon, Jeep a fait une annonce aujourd'hui.
Oui, et là, on va en faire du profit. Ouais, parce que, bon, évidemment, on avait présenté le Wagoneer S en design, c'est-à-dire, on l'avait pas vu physique, de façon physique réelle. Et ce qu'on a annoncé essentiellement aujourd'hui, c'est que ce véhicule-là, qui sera un VUS intermédiaire 100% électrique, le premier de la marque Jeep, sera sur le marché chez nous dès cet automne. Je soupçonne très fortement que ce qui va se retrouver sous la base de ce camion-là soit la même chose que ce qu'on va retrouver sous la nouvelle Charger électrique. On n'aura pas développé deux plateformes dédiées 100% électriques pour des véhicules de ce format-là, parce que ce sont deux gros véhicules. Pour vous donner une idée, là, le Wagoneer S, attendez-vous à un format de Tesla Model Y. Là. On est carrément là-dedans. Et on va être dans les prix de ça. Ça va avoisiner certainement... On va certainement être au-dessus des 80 000 $ là, chez Jeep avec ça. Alors, quand je te dis qu'il y aura du profit, initialement, peut-être pas tant que ça, mais...
Si tout se passe bien.
Tu sais, chez Stellantis, il n'y en a plus de véhicules abordables. Là. C'est pas compliqué. Là. On vient d'abandonner le Renegade et Et sinon, le véhicule le moins cher, c'est un Jeep Compass dont le prix d'entrée flirte avec les 40 000. Et personne n'achète ça, là.
Mais de toute façon, là, comme je disais la semaine dernière, la politique de Stellantis, c'est d'avoir des marges élevées sur chaque véhicule.
Ouais.
C'est comme ça qu'ils vont chercher du profit. Même en Europe, leurs petites voitures, maintenant les prix ont explosé. Donc il n'y a pas de raison qu'ils chargent plus cher pour des camions qui ont toujours été historiquement plus chers, pour des berlines qui ont été toujours été historiquement plus chères. Ils vont là-dedans parce que de toute façon, maintenant, le marché se déplace vers ça. Les véhicules accessibles disparaissent et les constructeurs veulent systématiquement augmenter leurs marges. Et Stellantis est un des plus agressifs.
Mais, tu sais, toi qui es d'origine européenne et qui analyse peut-être un peu mieux le marché européen que moi, la perception de la marque Jeep en Europe, il y a un peu d'exotisme là-dedans.
Bien sûr.
Ici, c'est pas ça, là.
Ben non.
Et on s'est tiré dans le pied avec des produits comme le Compass, le Patriot, les Jeep Liberty, des véhicules dont la qualité était épouvantable. Ça a fait mal à l'image de la marque Jeep. C'est sûr que quand on est arrivé en 92 avec le nouveau Grand Cherokee, là, c'était un wow extraordinaire. Puis là, tu venais de relever la barre à un niveau supérieur, même si ironiquement, c'était pas un produit authentiquement Chrysler, là. Il y avait un petit peu de Renault là-dedans.
Ah,
il y avait
c'était complètement en développement. C'est ça. Renault AMC.
Mais c'est quand même un véhicule qui a relevé la barre de l'image de la marque.
Bien sûr.
Mais par la suite, on a eu tellement de qualité inégale chez les produits.
Ben, l'intégration avec Chrysler dans les années 2000, ça a été un peu compliqué, surtout quand ils ont sorti leur clone justement de Caliber.
On en a vendu, mais en même temps, aujourd'hui, t'en vois plus sur les routes, puis ça fait pas si longtemps qu'on a arrêté de les faire.
Non.
Fait que, tu sais, c'était, on va le dire, là, dans le jargon automobile, là, c'était des vraies poubelles, là. C'était, il y a pas d'autres termes, là. C'était de la cochonnerie sur roues.
C'est effectivement des véhicules qui étaient pas fiables à l'époque et on savait qu'ils vieilliraient mal.
Puis t'achetais ça, tu levais ça sur un pont élévateur, puis tu étais capable de dire que les joints à rotule, les amortisseurs, les freins, tout ça, ça allait lâcher dans le temps de le dire. Alors, tu pouvais acheter ton véhicule, le rhabiller avec des pièces d'après-marché de meilleure qualité, puis tu étais déjà plus en machine. T'sais. C'était pas drôle, là. Mais on n'est plus là aujourd'hui, heureusement, non. Sauf que les factures...
Explosent,
littéralement.
Dis-moi Antoine, tu m'as dit qu'un de tes auditeurs t'avait contacté pour te demander si c'était normal de payer 1 000 $ pour changer de l'antigel dans son Kona EV après 3 ans.
Ouais, alors ça, j'ai trouvé ça assez particulier. Alors, un véhicule électrique, on sait que dans plusieurs cas, la batterie va être refroidie soit par le système de climatisation ou soit par un système de refroidissement auxiliaire. Dans le cas d'un Kona électrique, c'est un système de refroidissement auxiliaire. Pour vous donner une idée, sur une Chevrolet Bolt, aussi drôle que ça puisse paraître, il y a 3 systèmes de refroidissement. Alors, c'est pas vrai qu'il n'y a pas d'entretien là, sur un véhicule électrique, ça, c'en est la preuve.
Non, ça, c'est clair.
Et effectivement, il est prescrit chez Hyundai qu'après 3 ans ou 72 000 km, vous devez remplacer cet antigel-là afin que la batterie puisse être tempérée adéquatement et l'antigel a une durée de vie. La durée de vie de cet antigel-là est de 3 ans. C'est un antigel propre à Hyundai qui est dit électrique. Mais qui a ce désavantage de coûter extrêmement cher. C'est 149 $ le 2 litres.
Ouf.
Et il rentre pratiquement 12 litres dans le véhicule. Alors faites le calcul. Ce qui n'a absolument pas de bon sens. Mais ce que je m'explique mal, d'abord, c'est le coût de cet antigel-là, mais aussi le fait qu'on puisse acheter chez Valvoline, par exemple, je crois que le nom c'est du Zerex, alors c'est un antigel dit électrique équivalent à celui-là, on le paie 29 $ le gallon.
C'est effectivement une grosse différence.
Alors, pas besoin de vous dire que si vous allez chez votre garagiste indépendant, on pourra acheter 3 gallons à 29 $, se garder une marge de profit de 25%, vous le vendre 40 $, ça fait 120 au total, plus un 100 $ d'installation et de vidange, ça vous a coûté 220 $ plus taxes au lieu de plus de 1 000 $ chez Hyundai. Et en plus, cet antigel-là chez Valvoline, il est bon 5 ans, pas 3 ans. Alors, moi, quand j'ai vu ça, j'ai fait, est-ce que les concessionnaires comme Hyundai, qui ne voient ou qui ne revoient que très peu les véhicules électriques parce qu'ils ont crié haut et fort à leurs consommateurs qu'il n'y avait pas d'entretien à faire.
Évidemment.
Mais essaient de se trouver des formules alternatives pour ramener le consommateur et à ce moment-là, les facturer à grands frais.
De toute façon, c'est clair que ça va faire partie des changements dans l'avenir, de fidéliser le consommateur et de l'obliger à revenir chez le concessionnaire et pas chez un concessionnaire indépendant.
Mais avec des électriques, c'est difficile parce qu'on vante le fait qu'il n'y a pas d'entretien. Alors on se tire un peu dans le pied.
Il y aura toujours de l'entretien, il y aura toujours il y aura toujours justement même changer des filtres, les filtres à air de la climatisation, remettre la climatisation à jour.
Les freins, nettoyage des freins. De toute façon, on sait que c'est pas vrai.
Il y aura toujours de l'entretien. Mais c'est clair qu'effectivement, il y a beaucoup de ces entretiens-là qui peuvent être faits hors d'un réseau de concessionnaires de la marque. Parce qu'effectivement, changer des freins, ça ne demande pas d'expertise particulière,
effectivement. Non, c'est ça.
Il va effectivement falloir trouver des moyens de continuer à fidéliser l'acheteur et de lui dire attention, hein, si tu mets pas les bons liquides, les bons trucs, ta garantie sera pas bonne, etc.
Oui,
etc.
Sauf que, bon, c'est ça. Mais dans le cas de cet antigel de valvoline, et il y en a d'autres là, sur le marché, ben lui, il est approuvé. Là, donc, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Alors, peut-être vérifier quel est l'entretien qu'il faut faire sur votre véhicule électrique et voir s'il n'y a pas des alternatives moins coûteuses, parce que ça, c'en est une pas pire.
Ça fait partie des mauvaises surprises.